Chapitre 37 de l'ostracisme perpétuel. Les dernières paroles du docteur Noir résonnaient encore dans la grande chambre de Stello lorsque celui-ci s'écria en levant les deux bras au-dessus de sa tête « Oui, cela a dû se passer ainsi. Mes histoires, dit rudement le conteur satirique, sont comme toutes les paroles des hommes, à moitié vraies. » « Oui, cela a dû se passer ainsi, » poursuivit Stello. « Oui, je l'atteste par tout ce que j'ai souffert en écoutant. Comme l'on sent la ressemblance du portrait d'un inconnu ou d'un mort, je sens la ressemblance des vôtres. Oui, leurs passions et leurs intérêts les firent parler de la sorte. Donc, des trois formes du pouvoir possible, la première nous craint, la seconde nous dédaigne comme inutile, la troisième nous hait et nous nivelle comme supériorité aristocratique. Mais sommes-nous donc les ilotes éternels de les sociétés ?»« Ilotes ou dieux, dit le docteur, la multitude, vous en pouvant dans ses bras, vous regarde de travers, comme tous ses enfants, et de temps en temps vous jette à terre et vous foule aux pieds. C'est une mauvaise mère. Gloire éternelle à l'homme d'Athènes, oh! Pourquoi ne sait-on pas son nom? Pourquoi le sublime anonyme qui créa la Vénus de Milo ne lui a-t-il pas réservé la moitié de son bloc de marbre? Pourquoi n'a-t-on pas écrit en lettres d'or ce nom grossier sans doute en tête des hommes illustres de Plutarque? Gloire à l'homme d'Athènes! Je ne cesserai de le vénérer, de le considérer comme le type éternel, le magnifique représentant du peuple de toutes les nations et de tous les siècles. Je ne cesserai de penser à lui toutes les fois que je verrai des hommes assemblés pour juger quelque chose ou quelqu'un, ou seulement des hommes réunis qui se parleront d'une œuvre ou d'une action illustre, ou seulement des hommes qui prononceront un nom célèbre, comme la multitude les prononce d'ordinaire avec un accent indéfinissable. C'est un accent pincé, roide, jaloux et hostile. On dirait que le nom sort de la bouche avec explosion, malgré celui qu'il prononce, contraint par un charme magique, une puissance secrète qui en arrache les syllabes importunes. Lorsqu'il passe, la bouche grimace, les lèvres flottent vaguement entre le sourire du mépris et la contraction d'un examen profond et sérieux. Il y a du bonheur si, dans ce combat, le nom en passant n'est pas estropié ou suivi d'une rude et flétrissante épithète. Ainsi, lorsqu'on a goûté par complaisance une liqueur amère, si les lèvres la jettent loin d'elle, il est rare que ce mouvement ne soit pas suivi d'un souffle et d'une expression de dégoût. Ô multitude, multitude sans nom, vous êtes né ennemi des noms. Considérez ce que vous faites lorsque vous vous assemblez au théâtre. Le fond de vos sentiments est le désir secret de la chute et la crainte du succès. Vous venez comme, malgré vous, vous voudriez ne pas être charmé. Il faut que le poète vous dompte par son interprète, l'acteur. Alors vous vous soumettez, au nom sans murmure et sans une longue suite de reproches sourds et obstinés. Car proclamer un succès, un nom, c'est pour chacun mettre ce nom au-dessus du sien, puis reconnaître une supériorité qui offense celui qui s'y soumet. Et jamais, je l'affirme, vous ne vous y soumettriez, ô fière multitude, si vous le sentiez en même temps, heureuse consolation, que vous faites acte de protection. Votre position de juge qui verse l'or à pleine main vous soutient un peu dans le cruel effort que vous faites en signant par des applaudissements l'aveu d'une supériorité. Mais partout où ce dédommagement secret ne vous est pas donné, à peine avez-vous fait une gloire, vous la trouvez trop haute et vous la miez sourdement. Vous la reliez par le pied et la tête jusqu'à ce qu'elle retombe à votre niveau. Votre unique passion est l'égalité, ô multitude. Et tant que vous serez, vous vous sentirez poussé par besoin simultané d'un ostracisme perpétuel. Gloire à l'homme d'Athènes. Eh, mon Dieu, ne faut-il donc pas savoir comment il fut appelé, lui qui exprimait avec une immortelle naïveté vos sentiments innés? Pourquoi le bannis-tu? Je suis fatigué, dit-il, d'entendre louer son nom. Chapitre 38. Le ciel d'Homère.
Pilotes ou dieux, répéta le docteur Noir, vous souvient-il en outre d'un certain Platon qui nommait les poètes imitateurs de fantômes et les chassait de sa république, mais aussi les nommait divins? Platon aurait eu raison de les adorer en les éloignant des affaires, mais l'embarras où il est pour conclure, ce qu'il ne fait pas, et pour unir son adoration à son bannissement, montre à quelle pauvreté et quelles injustices est conduit un esprit rigoureux et logicien sévère lorsqu'il veut tout soumettre à une règle universelle. Platon veut l'utilité de tous dans chacun, mais voilà que tout à coup il trouve en son chemin des inutiles sublimes, comme Homère, et il n'en sait que faire. Tous les hommes de l'art le gênent. Il leur applique son équerre et il ne peut les mesurer. Cela le désole. Alors il les range tous, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, dans la catégorie des imitateurs. Déclare que tout art n'est qu'un badinage d'enfant, que les arts s'adressent à la plus faible partie de l'âme, celle qui est susceptible d'illusion, la partie peureuse, qui s'attendrit sur les misères humaines, que les arts sont déraisonnables, lâches, timides, contraires à la raison, que pour plaire à la multitude confuse, les poètes s'attachent à peindre les caractères passionnés, plus aisés à saisir par leur variété, qu'ils corromperaient l'esprit des plus sages si on ne les condamnait, qu'ils feraient régner le plaisir et la douleur dans l'État à la place des lois et de la raison. Il dit encore qu'Homère, s'il eût été en état d'instruire, de perfectionner les hommes, et non un inutile chanteur, comme il l'était, incapable même, ajoute-t-il, d'empêcher Cléophile, son ami, d'être gourmand aux niaiseries antiques, on ne l'eût pas laissé mendier pieds nus, mais on l'eût estimé, honoré et servi, autant que Protagoras d'Abdère et Prodicus de Céos, sages philosophes, porté en triomphe partout. Dieu tout-puissant, s'écria Stello, qu'est-ce que je vous prie à présent pour nous autres que les honorables Protagoras et Prodicus, tandis que tout vieillard, tout homme et tout enfant adore en pleurant le divin Homère? Ah, ah, reprit le docteur, les yeux animés par un triomphe désespérant. Vous voyez donc qu'il n'y a pas plus de pitié pour les poètes parmi les philosophes que parmi les hommes du pouvoir. Ils se tiennent tous la main en foulant les pisards sous les pieds. Mais je le sens, dit Stello, pâle et agité. Mais quelle en est donc la cause impérissable? Leur sentiment est l'envie, dit l'inflexible docteur. Leur idée, au prétexte indestructible, est l'inutilité des arts à l'état social. La pantomime de tous en face du poète est un sourire protecteur et dédaigneux, mais tous sentent au fond du cœur quelque chose comme la présence d'un dieu supérieur. Et en cela, ils sont encore bien au-dessus des hommes vulgaires, qui ne sentant qu'à demi cette supériorité, éprouvent seulement près des poètes cette gêne que leur causerait aussi le voisinage d'une grande passion qu'ils ne comprendraient pas. Ils ont la gêne que sentirait un fat ou un froid pédant, transporté subitement à côté de Paul au moment du départ de Virginie, de Werther au moment où il va saisir ses pistolets, à côté de Roméo quand il vient de boire le poison, de Desgrieux quand il suit pieds nus la charrette des filles perdues. C'est indifférent, les croira tous indubitablement, mais il sentira pourtant quelque chose de grand et de respectable dans ces hommes voués à une émotion profonde. Et il se taira en s'éloignant, se croyant supérieur à eux, parce qu'il n'est pas ému. « Juste, oh juste !» dit Stello dans sa poitrine. et s'enfonçant de plus en plus dans son fauteuil, comme pour se dérober au son de voix dur et puissant qu'il poursuivait. Pour en revenir à Platon, il y avait aussi rivalité de divinité entre Homère et lui. Une jalouse humeur animait cet esprit vaste et justement immortel, mais positif comme tous ceux qui n'appuient leur domination intellectuelle que sur le développement infini du jugement et repoussent l'imagination. Sa conviction était profonde parce qu'il la puisait dans le sentiment des facultés de son être, auquel chacun veut toujours mesurer les autres. Platon avait un esprit exact, géométrique et raisonneur, tel que depuis lui Pascal, et tous deux repoussèrent durement la poésie, qui ne sentait pas. Mais je ne poursuis que Platon parce qu'il ne sort pas de notre sujet de conversation, ayant une gigantesque prétention de législateur et d'homme d'État. Je crois me souvenir, monsieur, qu'il dit à peu près ceci. La faculté qui juge tout selon la mesure et le calcul est ce qu'il y a de plus excellent dans l'âme. Donc, l'autre faculté qui lui est opposée est une des choses les plus frivoles qui soient en nous. Et cet honnête homme part de là pour traiter Homère du haut en bas. Il le met sur la sellette et lui dit d'un air de rhéteur, vers le livre sixième de sa République. « Mon cher Homère, s'il n'est pas vrai que vous soyez un ouvrier éloigné de 3 degrés de la vérité, incapable de faire autre chose que des fantômes de vertu, oui, car il tient à ces fantômes. Si vous êtes un ouvrier du second ordre, capable de connaître ce qui peut rendre meilleur ou pire les États et les particuliers, dites-nous quelle ville vous doit la réforme de son gouvernement. Comme Lacédémone en est redevable à Lycurgue, l'Italie et la Sicile à Carondas, Athènes à Solon. Quelle guerre avez-vous conduite ou conseillée? Quelle utile découverte, quelle invention bonne à la perfection des arts et aux besoins de la vie ont signalé votre nom? » Et continuant ainsi avec son complaisant Glaucon, qui répond sans cesse « Fort bien, voici ce qui est vrai, oh, vous avez raison, à peu près sur le même ton que prend un petit séminariste répondant à son abbé dans une conférence. Voilà mon philosophe qui chasse par les épaules le mendiant divin hors de sa république. Fantastique, heureusement, pour l'humanité. » À ce familier discours, le bon Homère ne répondit rien, par la raison qu'il dormait, non de ce petit sommeil, dormitat, qu'un autre osa lui reprocher pour s'amuser à poser des règles aussi, mais du sommeil qui pèse cette nuit sur les yeux de Gilbert, de Chatterton et d'André Chénier. Ici, Stello poussa un profond soupir et cacha sa tête dans ses mains. « Cependant, poursuivit le docteur Noir, supposons que nous tenions ici entre nous deux le divin Platon. Ne pourrions-nous pas, s'il vous plaît, le conduire au musée Charles X ? Pardon, de la liberté grande, je ne lui sais pas d'autre nom. Sous le plafond sublime qui représente le règne, que dis-je, ciel d'Homère ? Nous lui montrerions ce vieux pauvre assis sur un trône d'or avec un bâton de mendiant et d'aveugle, comme un sceptre entre les jambes, ses pieds fatigués, poudreux et meurtris. Mais à ses pieds, ses deux filles, deux déesses, l'Iliade et l'Odyssée. Une foule d'hommes couronnés le contemplaient et l'adoraient, mais debout, selon qu'il sied au génie. Ces hommes sont les plus grands dont les noms ont été conservés, les poètes. Et si j'avais dit les plus malheureux, ce seraient eux aussi. Ils forment de son temps au nôtre une chaîne presque sans interruption de glorieux exilés, de courageux persécutés, de penseurs affolés par la misère, de guerriers inspirés au camp, de marins sauvant leur lyre de l'océan et non des cachots, hommes remplis d'amour et rangés autour du premier et du plus misérable, comme pour lui demander compte de tant de haine qui les immobile d'étonnement. Agrandissons ce plafond sublime dans notre pensée, haussons et élargissons cette coupole jusqu'à ce qu'elle contienne tous les infortunés que la poésie ou l'imagination frappa d'une réprobation universelle. Ah, mais le firmament d'un beau jour d'août n'y suffirait pas. Non, le firmament d'azur et d'or, tel qu'on le voit au Caire, pur de toute légère et imperceptible vapeur, ne serait pas une toile assez large pour servir de fond à leur portrait. Levez les yeux dans ce plafond et figurez-vous y voir monter ces fantômes mélancoliques. Torquato Tasso, des yeux brûlés de pleurs, couverts de haillons, dédaignés même de Montaigne. Ah, philosophe, qu'as-tu fait là? Et réduit à n'y plus voir, non par cécité, mais... Oh, je ne le dirai pas en français, que la langue des Italiens soit tachée de ce cri de misère qu'il a jeté. Non avendo candela per scrivere i suoi versi. Milton, aveugle, jetant à un libraire son paradis perdu pour 10 livres sterling. Caboen, se recevant l'aumône à l'hôpital des mains de ce sublime esclave qui mendiait pour lui sans le quitter. Cervantes, tendant la main de son lit de misère et de mort. Le sage, en cheveux blancs, suivi de sa femme et de ses filles, allant demander un asile pour mourir à un pauvre chanoine, son fils. Corneille, manquant de tout, même de bouillon, dit Racine au roi, au grand roi. Dryden a 70 ans, mourant de misère et cherchant dans l'astrologie une vaine consolation aux injustices humaines. Spencer, errant à pied à travers l'Irlande, moins pauvre et moins désolé que lui, et mourant avec la reine des fées dans sa tête, Rosalinda dans son cœur et pas un morceau de pain sur les lèvres. Eux que je voudrais pouvoir m'arrêter là. Vandel, ce vieux Shakespeare de la Hollande, mort de faim à 90 ans, et dont le corps fut porté par 14 poètes misérables et pieds nus. Samuel Royer, qui fut trouvé mort de froid dans un grenier. Butler, qui fit Eudibras et bourru de misère. Floyer, Stidenham et Rushworth, chargés de chaînes comme des forçats. Jean-Jacques Rousseau, qui se tua pour ne pas vivre d'aumône. Malfilâtre que la femme mit au tombeau, dit Gilbert à l'hôpital. Et tous ceux encore dont les noms sont écrits dans le ciel de chaque nation et sur les registres de ses hôpitaux. Supposez que Platon s'avance seul au milieu de tous et lise à la céleste famille cette feuille de sa République que je vous ai citée. Pensez-vous qu'Homère ne puisse pas lui dire du haut de son trône « Mon cher Platon, il est vrai que le pauvre Homère est... Comme lui, tous les infortunés immortels qui l'entourent ne sont rien que des imitateurs de la nature. Il est vrai qu'ils ne sont pas tourneurs parce qu'ils font la description d'un lit, ni médecins parce qu'ils racontent une guérison. Il est vrai que par une couche de mots et d'expressions figurées, soutenues de mesures, de nombres et d'harmonie, ils simulent la science qu'ils décrivent. Il est bien vrai qu'ils ne font ainsi que présenter aux yeux des mortels un miroir de la vie et que, trompant leur regard, ils s'adressent à la partie de l'âme qui est susceptible d'illusion. Mais, ô divin Platon, votre faiblesse est grande lorsque vous croyez la plus faible, cette partie de notre âme qui s'émeut et qui s'élève, pour lui préférer celle qui pèse et qui mesure. L'imagination avec ses élus est aussi supérieure au jugement, seule avec ses orateurs, que les dieux de l'Olympe aux demi-dieux. Le don du ciel le plus précieux, c'est le plus rare. Or ne voyez-vous pas qu'un siècle fait naître 3 poètes pour une foule de logiciens et de sophistes, très sensés et très habiles? L'imagination contient en elle-même le jugement et la mémoire, sans lesquels elle ne serait pas. Qui entraîne les hommes si ce n'est l'émotion? Qui enfante l'émotion si ce n'est l'art? Et qui enseigne l'art si ce n'est Dieu lui-même? Car le poète n'a pas de maître, et toutes les sciences sont apprises, hors la sienne. Vous me demandez quelles institutions, quelles lois, quelles doctrines j'ai données aux villes? Aucune aux nations, mais une éternelle au monde. Je ne suis d'aucune ville, mais de l'univers. Vos doctrines, vos lois, vos institutions ont été bonnes pour un âge et un peuple, et sont mortes avec eux. Tandis que les œuvres de l'art céleste restent debout pour toujours à mesure qu'elles s'élèvent, et toutes portent les malheureux mortels à la loi impérissable de l'amour et de la pitié. Stello joignit les mains malgré lui comme pour prier. Le docteur se tut un moment et bientôt continua ainsi. Chapitre 39. Un mensonge social. Et cette dignité calme de l'antique Homère, de cet homme symbole de la destinée des poètes, cette dignité n'est autre chose que le sentiment continuel de sa mission que doit toujours avoir en lui l'homme qui se sent une muse au fond du cœur. Ce n'est pas pour rien que cette muse y est venue. Elle sait tout ce qu'elle doit faire et le poète ne le sait pas d'avance. Ce n'est qu'au moment de l'inspiration qu'il l'apprend. Sa mission est de produire des œuvres, et seulement lorsqu'il entend la voix secrète, il doit l'attendre. Que nulle influence étrangère ne lui dicte ses paroles, elles seraient périssables. Qu'il ne craigne pas l'inutilité de son œuvre. Si elle est belle, elle sera utile par cela seul, puisqu'elle aura uni les hommes dans un sentiment commun d'adoration et de contemplation pour elle et la pensée qu'elle représente. Le sentiment d'indignation que j'ai excité en vous a été trop vif, monsieur, pour me permettre de douter que vous n'ayez bien senti qu'il y a et qu'il y aura toujours antipathie entre l'homme du pouvoir et l'homme de l'art. Mais outre la raison d'envie et de prétexte d'utilité, ne reste-t-il pas encore une autre cause plus secrète à dévoiler? Ne l'apercevez-vous pas dans les craintes continuelles où vit tout homme qui a une autorité, de perdre cette autorité chérie et précieuse qui est devenue son âme? Hélas, j'entrevois à peu près ce que vous allez dire encore, dit Stello. N'est-ce pas la crainte de la vérité? Eh bien, nous y voilà, dit le docteur avec joie. Comme le pouvoir est une science de convention selon les temps, et que tout ordre social est basé sur un mensonge plus ou moins ridicule, tandis qu'au contraire les beautés de tout art ne sont possibles que dérivant de la vérité la plus intime, vous comprenez que le pouvoir, quel qu'il soit, trouve une continuelle opposition entre toute œuvre ainsi créée, de là ses efforts éternels pour comprimer ou séduire. Hélas, dit Stello, à quelle odieuse et continuelle résistance le pouvoir condamne le poète. Mais ce pouvoir ne peut-il se ranger lui-même à la vérité? Mais il ne le peut, vous dis-je, s'écria violemment le docteur en frappant sa canne à terre. Et mes trois exemples politiques ne prouvent point que le pouvoir ait tort d'agir ainsi, mais seulement que son essence est contraire à la vôtre, et qu'il ne peut faire autrement que de chercher à détruire ce qui le gêne. « Mais, dit Stello avec un air de pénétration, essayant de se retrancher quelque part, comme un tirailleur chargé en plaine par un gros escadron, mais si nous arrivons à créer un pouvoir qui ne fût pas une fiction, ne serions-nous pas d'accord? Oh oui, certes, mais est-il jamais sorti et sortira jamais des deux points uniques sur lesquels il puisse s'appuyer, hérédité et capacité ? Qui vous déplaise si fort et auquel il faut revenir. Et si votre pouvoir favori règne par l'hérédité et la propriété, vous commencerez, monsieur, par me trouver une réponse à ce petit raisonnement connu sur la propriété. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Et sur l'hérédité à ceci, on ne choisit pas pour gouverner un vaisseau dans la tempête, celui des voyageurs qui est de meilleure maison. Et encore que ce soit la capacité qui vous séduise, vous me trouverez, s'il vous plaît, une forte récompense à ce petit mot. Qui cédera la place à l'autre? Je suis aussi habile que lui. Qui décidera entre nous? Vous me trouverez facilement ces réponses. Je vous donne du temps. Oh, un siècle, par exemple. Oh, dit Stello consterné, 2 siècles n'y suffiraient pas. Ah, j'oubliais, poursuivit le docteur Noir. Ensuite, il ne vous restera plus qu'une bagatelle. Ce sera d'anéantir au cœur de tout homme né de la femme cet instinct effrayant. Notre ennemi, c'est notre maître. Pour moi, je ne puis souffrir naturellement aucune autorité. Ma foi, ni moi, dit Stello, emporté par la vérité, fût-ce l'innocent pouvoir d'un garde champêtre. Et de quoi s'affligerait-on si tout ordre social est mauvais et s'il doit l'être toujours? Il est évident que Dieu n'a pas voulu que cela fût autrement. Il ne tenait qu'à lui de nous indiquer en quelques mots une forme de gouvernement parfaite dans le temps où il a daigné habiter parmi nous. Avouez que le genre humain a manqué là une bien bonne occasion. Quel rire désespéré, fit Stello. Et il ne la retrouvera plus, continua l'autre. Il faut en prendre son parti, en dépit de ce beau cri que répètent en chœur tous les législateurs. À mesure qu'ils ont fait une constitution écrite avec de l'encre, il s'écrie « En voilà pour toujours !» Allons, comme vous n'êtes pas de ces gens innombrables pour qui la politique n'est autre chose qu'un chiffre, on peut vous parler. Allons, dites-le hautement, ajouta le docteur, se couchant dans son fauteuil à sa façon. De quel paradoxe êtes-vous amoureux maintenant, s'il vous plaît? Stello se tut. À votre place, j'aimerais une créature du Seigneur plutôt qu'un argument, quelque beau qu'il fût. Stello baissa les yeux. Mais à quel mensonge social nécessaire voulez-vous vous dévouer? Car nous avouons qu'il en faut un pour qu'il y ait une société. Auquel, voyons, sera-ce au moins absurde, mais lequel est-ce? Oh, je le sais en vérité, dit la victime du raisonneur. Et quand pourrais-je vous dire, continua l'imperturbable, ce que je sens venir sur mes lèvres toutes les fois que je rencontre un homme carapaçonné d'un pouvoir? Comment va votre mensonge social ce matin? Se soutient-il? Mais ne peut-on soutenir un pouvoir sans y participer? Au milieu d'une guerre civile, ne pourrais-je pas choisir? Et qui vous dit le contraire? Interrompit le docteur avec humeur. Il s'agit bien de cela. Je parle de vos pensées, de vos travaux, par lesquels seulement vous existez à mes yeux. Que me font vos actions? Qu'importe dans les moments de crise que vous soyez brûlé avec votre maison, ou tué dans un carrefour, ou 3 fois tué, 3 fois enterré, 3 fois ressuscité, comme signait le capitaine normand François Séville au temps de Charles IX. Faites le jeu qui vous plaira, mettez, si vous voulez, l'hérédité dans le carrosse et la capacité sur le siège, pour voir les accorder. Peut-être, dit Stello, jusqu'à ce que le cocher essaye de verser le maître ou d'entrer dans la voiture. Ce ne serait pas mal, continua le docteur. Oh, nul doute, monsieur, qu'il ne faille autant choisir en temps de lutte que se laisser balloter comme un numéro dans le sac d'un grand loto. Mais l'intelligence tient presque pour rien, car vous voyez que par le raisonnement appliqué au choix du pouvoir qu'on veut s'imposer, on n'arrive qu'à des négations quand on est de bonne foi. Mais dans les circonstances dont nous parlons, suivez votre cœur ou votre instinct. Soyez, oh, passez-moi l'expression, bête comme un drapeau. Ô profanateur ! S'écria Stello. Plaisantez-vous, dit le docteur. Mais le plus grand des profanateurs, c'est le temps. Il a usé vos drapeaux jusqu'au bois. Lorsque le drapeau blanc de la Vendée marchait au vent contre le drapeau tricolore de la Convention, tous deux étaient loyalement l'expression d'une idée. L'un voulait bien dire nettement monarchie, hérédité, catholicisme, l'autre république, égalité, raison humaine. Leurs plis de soie claquaient dans l'air au-dessus des épées, comme au-dessus des canons, on se faisait entendre les chants enthousiastes des voix mâles sorties de cœur bien convaincus. Henri IV et la Marseillaise se heurtaient dans l'air comme des faux et des baïonnettes sur la terre. C'était là des drapeaux. Autant de dégoût et de pâleur, tu n'en as plus. Naguère le blanc signifiait charte. Aujourd'hui le tricolore veut dire charte. Le blanc était devenu un peu rouge et bleu. Le tricolore est devenu un peu blanc. Leur nuance est insaisissable. Trois petits articles d'écriture en font, je crois, la différence. Ôtez donc la flamme et portez ces articles au bout du bâton. Dans notre siècle, je vous le dis, l'uniforme sera un jour ridicule, comme la guerre est passée. Le soldat sera déshabillé, comme le médecin l'a été par Molière, et ce sera peut-être un bien. Tout sera rangé sous un habit noir, comme le mien. Les révoltes même n'auront pas d'étendard. Demandez à Lyon, en cette 1832e année de notre Seigneur. En attendant, allez comme vous le voudrez, dans les actions. Elles m'occupent peu. Obéissez à vos affections, vos habitudes, vos relations sociales, votre naissance, que sais-je, moi. Soyez décidé par le ruban qu'une femme vous donnera, et soutenez le petit mensonge social qui lui plaira. Puis récitez-lui les vers d'un grand poète. Lorsque deux factions divisent un empire, chacun suit au hasard la meilleure et la pire. Mais quand ce choix est fait, on ne s'en dédie plus. Au hasard. Ben, il fut de mon avis et ne dit pas la plus sensée. Qui eut raison, des guelfes ou des gibelins, à votre sens? Ne serait-ce pas la Divina Commedia? Abusez donc votre cœur, votre bras, tout votre corps avec ce jeu d'accident. Ni moi, ni la philosophie, ni le bon sens n'avons rien à faire là. C'est pure affaire de sentiment et puissance de fait, d'intérêt et de relation. Je désire ardemment, pour le bien que je vous souhaite, que vous ne soyez pas né dans cette caste des parias, jadis brames, que l'on nommait noblesse, et que l'on a flétri d'autres noms. Classe toujours dévouée à la France, et lui donnant ses plus belles gloires, achetant de son sang le plus pur le droit de la défendre en se dépouillant de ses pierres, pièce à pièce, et de père en fils. Grande famille pipée, trompée, sapée par ses plus grands rois, sortie d'elle, hachée par quelques-uns, les servant sans cesse et leur parlant haut et franc, traqués, exilés, plus que décimés, et toujours dévoués, tantôt au prince qui la ruine, ou la reine, ou la renie, ou l'abandonne, tantôt au peuple qui la méconnaît et la massacre. Entre ce marteau et cette enclume, toujours pur et toujours frappé, comme un fer rougi au feu, entre cette hache et ce billot, toujours saignante et souriante comme les martyrs, race aujourd'hui rayée du livre de vie et regardée de côté comme la race juive. Oh, je désire que vous n'en soyez pas. Mais que dis-je, qui que vous soyez d'ailleurs, vous n'avez nul besoin de vous mêler de votre parti. Les partis ont soin d'en régimenter un homme, malgré lui, selon sa naissance, sa position, ses antécédents, de si bonne sorte qu'il n'y peut rien, quand il crierait du haut des toits et signerait de son sang qu'il ne pense pas tout ce que pensent les compagnons qu'on lui suppose et qu'on lui assigne. Ainsi, en cas de bouleversement, j'accepte absolument les parties de notre consultation, et là-dessus je vous abandonne au vent qui soufflera. » Stello se leva, comme on fait quand on veut se montrer tout entier, avec une secrète satisfaction de soi-même, et jeta même un regard sur une glace où son ombre se réfléchissait. « Eh bien, connaissez-vous bien vous-même » dit-il avec assurance. « Savez-vous, et qui le sait, excepté moi, savez-vous quelles sont les études de mes nuits ? Pourquoi, si elle est ainsi, ne pas dépouiller la poésie et la jeter à terre comme un manteau usé ? Qui vous dit que je n'ai pas étudié, analysé, suivi, pulsation par pulsation, veine par veine, nerf par nerf, toutes les parties de l'organisation morale de l'homme, comme vous de son être matériel ? Que j'ai pas pesé dans une balance de fer machiavélique les passions de l'homme naturel et les intérêts de l'homme civilisé, leurs orgueils insensés, leurs joies égoïstes, leurs espérances vaines, leurs faussetés étudiées, leurs malveillances déguisées, leurs jalousies honteuses, leurs avarices fastueuses, leurs amours singés, leurs haines amicales. Ô désirs humains, craintes humaines, vagues éternelles, vagues agitées d'un océan qui ne change pas, vous êtes seulement comprimés, quelquefois par des courants hardis qui vous emportent, des vents violents qui vous soulèvent, ou des rochers immuables qui vous brisent. Et, dit le docteur en souriant, vous aimeriez à vous croire, courant, vent ou rocher, et vous pensez que vous ne devez jeter que des œuvres dans cet océan. Il faut bien plus de génie pour résumer tout ce qu'on sait de la vie dans une œuvre d'art que pour jeter cette semence sur la terre, toujours remuée des événements politiques. Il est plus difficile d'organiser tel petit livre que tel gros gouvernement. Le pouvoir n'a plus depuis longtemps ni la force ni la grâce. Ces jours de grandeur et de fête ne sont plus. On cherche mieux que lui. Le tenir en main, cela s'est toujours pu réduire à l'action de manier des idiots et des circonstances. Et ces circonstances et ces idiots, ballottés ensemble, amènent des chances imprévues et nécessaires auxquelles les plus grands ont confessé qu'ils devaient la plus belle partie de leur renommée. Mais à qui la doit le poète ? Si ce n'est à lui-même. La hauteur, la profondeur et l'étendue de son œuvre et de sa renommée future sont égales aux trois dimensions de son cerveau. Il est par lui-même, il est lui-même, et son œuvre est lui. Les premiers des hommes seront toujours ceux qui feront d'une feuille de papier, d'une toile, d'un marbre, d'un son, des choses impérissables. Ah, s'il arrive qu'un jour vous ne sentiez plus se mouvoir en vous la première et la plus rare des facultés, l'imagination, si le chagrin ou l'âge la dessèche dans votre tête comme l'amande au fond du noyau, s'il ne vous reste plus que jugement et mémoire lorsque vous sentirez le courage de démentir 100 fois par vos actions publiques, par vos paroles démiodiques, vos paroles par vos actions et vos actions l'une par l'autre et l'une par l'autre vos paroles, comme tous les hommes politiques, alors faites comme d'autres, bien à plaindre, désertez le ciel de mer. Il vous restera encore plus qu'il ne faudra pour la politique et l'action, à vous qui descendrez d'en haut. Mais jusque-là, laissez aller d'un vol libre et solitaire l'imagination qui peut être en vous. Les œuvres immortelles sont faites pour duper la mort en faisant survivre vos idées à notre corps. Écrivez-en de telles si vous pouvez, soyez sûr que s'il s'y rencontre une idée ou seulement une parole utile au progrès civilisateur que vous ayez laissé tomber comme une plume de votre aile, il se trouvera assez d'hommes pour la ramasser l'exploiter, la mettre en œuvre jusqu'à satiété. Laissez-les faire. L'application des idées aux choses n'est qu'une perte de temps pour les créateurs de pensées. » Stello, debout encore, regarda le docteur Noir avec recueillement, sourit enfin et tendit la main à son sévère ami. « Je me rends, dit-il, écrivez votre ordonnance. » Le docteur prit du papier. « Bon, il est bien rare, dit-il tout en griffonnant, que le sens commun donne une ordonnance qui soit suivie. Ben, « suivrez la vôtre comme une loi immuable et éternelle, » dit Stello, non sans étouffer un soupir. Et il s'assit, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, avec un sentiment de profond désespoir et la conviction d'un vide nouveau rencontré sous ses pas. Mais en écoutant l'ordonnance, il lui sembla qu'un brouillard épais s'était dissipé devant ses yeux et que l'étoile infaillible lui montrait le seul chemin qu'il eut à suivre. Voici ce que le docteur Noir écrivait, motivant chaque point de son ordonnance, usage fort louable et assez rare. Chapitre 40. Ordonnance du docteur Noir. Séparer la vie poétique de la vie politique. Et pour y parvenir, premièrement, laisser à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le droit d'être, chaque heure de chaque jour, admis dans la rue, trompé dans le palais, combattu sourdement, miné longuement, battu promptement et chassé violemment. Parce que l'attaquer ou le flatter avec la triple puissance des arts, ce serait avilir son œuvre et l'empreindre de ce qu'il y a de fragile et de passager dans les événements du jour. Il convient de laisser cette tâche à la critique du matin qui est morte le soir ou à celle du soir qui est morte le matin. Laisser à tous les Césars la place publique et les laisser jouer leur rôle et passer tant qu'ils ne troubleront ni les travaux de vos nuits ni le repos de vos jours. Plaignez-les de toute votre pitié, s'ils ont été forcés de se mettre au front cette couronne césarienne qui n'a plus de feuilles et déchire la tête. Plaignez-les encore, s'ils l'ont désiré. Leur réveil en est plus cruel, après un long et beau rêve. Plaignez-les, s'ils sont pervertis par le pouvoir, car il n'est rien que ne puisse fausser cette critique et peut-être nécessaire fausseté, d'où vient tant de maux. Regardez cette lumière s'éteindre et veillez, heureux si vos veilles peuvent aider l'humanité à se grouper et s'unir autour d'une clarté plus pure. Deuxièmement, seul et libre à accomplir sa mission. Suivre les conditions de son être, dégagé de l'influence des associations, même les plus belles. Parce que la solitude seule est la source des inspirations. La solitude est sainte. Toutes les associations ont tous les défauts des couvents. Elles tentent à classer et diriger les intelligences et fondent peu à peu une autorité tyrannique qui, autant ses intelligences, la liberté et l'individualité, sans lesquelles elles ne sont rien, étoufferait le génie même sous l'empire d'une communauté jalouse. Dans les assemblées, les corps, les compagnies, les écoles, les académies et tout ce qui leur ressemble, les médiocrités intrigantes arrivent par degrés à la domination par leur activité grossière et matérielle, et cette sorte s'adresse à laquelle ne peuvent descendre les esprits vastes et généreux. L'imagination ne vit que d'émotions spontanées et particulières à l'organisation et aux penchants de chacun. La République des lettres est la seule qui puisse jamais être composée de citoyens vraiment libres, car elle est formée de penseurs isolés, séparés et souvent inconnus les uns aux autres. Les poètes et les artistes ont seuls, parmi tous les hommes, le bonheur de pouvoir accomplir leur mission dans la solitude. Qu'ils jouissent de ce bonheur de ne pas être confondus dans une société qui se presse autour de la moindre célébrité, se l'approprie, l'enserre, l'englobe, l'étreint, et lui dit « nous ». Oui, l'imagination du poète est inconstante, autant que celle d'une créature de 15 ans, recevant les premières impressions de l'amour. L'imagination du poète ne peut être conduite, puisqu'elle n'est pas enseignée. Ôtez-lui ses ailes et vous la ferez mourir. La mission du poète ou de l'artiste est de produire, et tout ce qu'il produit est utile, si cela est admiré. Un poète donne sa mesure par son œuvre. Un homme attaché au pouvoir ne la peut donner que par les fonctions qu'il remplit. Bonheur pour le premier, malheur pour l'autre. Car s'il se met un progrès dans les deux têtes, l'un s'élance tout à coup en avant par une œuvre. L'autre est forcé de suivre la lente progression des occasions de la vie et les pas graduels de sa carrière. Seul est libre à accomplir sa mission. Troisièmement, éviter le rêve maladif et inconstant qui égare l'esprit et employer toutes les forces de la volonté à détourner sa vue des entreprises trop faciles de la vie active. Parce que l'homme découragé tombe souvent par paresse de penser dans le désir d'agir et de se mêler aux intérêts communs, voyant comme ils lui sont inférieurs et combien il semble facile d'y prendre son ascendant. C'est ainsi qu'il sort de sa route, et s'il en sort souvent, il la perd pour toujours. La neutralité du penseur solitaire est une neutralité armée qui s'éveille au besoin. Il met un doigt sur la balance et l'emporte. Tantôt il presse, tantôt il arrête l'esprit des nations. Il inspire les actions publiques ou proteste contre elles, selon qu'il lui est révélé de le faire par la conscience qu'il a de l'avenir. Que lui importe si sa tête est exposée en se jetant en avant ou en arrière? Il dit le mot qu'il faut dire et la lumière se fait. Il dit ce mot de loin en loin et, tandis que le mot fait son bruit, il rentre dans son silencieux travail et ne pense plus à ce qu'il a fait. Quatrièmement, avoir toujours présentes à la pensée les images choisies entre mille de Gilbert, de Chatterton et d'André Chénier. Parce que ces trois jeunes ombres, étant sans cesse devant vous, chacune d'elles gardera l'une des routes politiques où vous pourriez égarer vos pieds. L'un des trois fantômes adorables vous montrera sa clé, l'autre sa fiole de poison et l'autre sa guillotine. Ils vous crieront ceci: le poète a une malédiction sur sa vie et une bénédiction sur son nom. Le poète, apôtre de la vérité toujours jeune, cause un éternel ombrage à l'homme du pouvoir, apôtre d'une vieille fiction, parce que l'un a l'inspiration et l'autre seulement l'attention ou l'aptitude d'esprit. Parce que le poète laissera une œuvre où sera écrit le jugement des actions publiques et de leurs acteurs. Parce qu'au moment même où ces acteurs disparaissent pour toujours à la mort, l'auteur commence une longue vie. Suivez votre vocation. Votre royaume n'est pas de ce monde sur lequel vos yeux sont ouverts, mais de celui qui sera quand vos yeux seront fermés. L'espérance est la plus grande de nos folies. Et qu'attendre d'un monde où l'on vient avec l'assurance de voir mourir son père et sa mère? D'un monde où de deux êtres qui s'aiment et se donnent leur vie, il est certain que l'un perdra l'autre et le verra mourir. Puis ces fantômes douloureux cesseront de parler et uniront leur voix en cœur comme en un hymne sacré. Car la raison parle, mais l'amour chante. Et vous entendrez encore ceci sur les hirondelles. Voyez ce que font les hirondelles, oiseaux de passage aussi bien que nous. Elles disent aux hommes: protégez-nous, mais ne nous touchez pas. Et ces hommes ont pour elles, comme pour nous, un respect superstitieux. Les hirondelles choisissent leur asile dans le marbre d'un palais ou dans le chaume d'une cabane. Mais ni l'homme du palais, ni l'homme de la cabane n'oseraient toucher à leur nid, parce qu'ils perdraient pour toujours l'oiseau qui porte bonheur à leur habitation, comme nous aux terres des peuples qui nous vénèrent. Les hirondelles ne posent qu'un moment leurs pieds sur la terre et nagent dans le ciel toute leur vie, aussi aisément que les dauphins dans la mer. Et si elles voient la terre, c'est du haut du firmament qu'elles la voient. Et les arbres, les montagnes, les villes et les monuments ne sont pas plus élevés à leurs yeux que les platanes et les ruisseaux. Comme au regard céleste du poète, tout ce qui est de la terre se confond en un seul globe éclairé par un rayon d'en haut. Les écouter et, si vous êtes inspiré, faire un livre. Ne pas espérer qu'un grand œuvre soit contemplé, qu'un livre soit lu, comme ils ont été faits. Si votre livre est écrit dans la solitude, l'étude et le recueillement, je souhaite qu'il soit lu dans le recueillement, l'étude et la solitude. Mais soyez à peu près certain qu'il sera lu à la promenade, au café, en calèche, entre les causeries, les disputes, les verres, les jeux et les éclats de rire, ou pas du tout. Et s'il est original, Dieu vous puisse garder des pâles imitateurs, troupes nuisibles et innombrables de singes salissants et maladroits. Et après tout cela, vous aurez mis au jour quelques volumes qui, pareils à toutes les œuvres des hommes, lesquels n'ont jamais exprimé qu'une question et un soupir, pourra se résumer infailliblement par les deux mots qui ne cesseront jamais d'exprimer notre destinée de doute et de douleur. Pourquoi ? Et hélas !
Chapitre 41. Effet de la consultation.
Stello crut un moment avoir entendu la sagesse même. Quelle folie ! Il semblait que le cauchemar s'était enfui. Il courut involontairement à la fenêtre pour voir briller son étoile, à laquelle il croyait. Il jeta un grand cri. Le jour était venu. L'aube pâle et humide avait chassé du ciel toutes les belles étoiles. Il n'y en avait plus qu'une qui s'évanouissait à l'horizon. Avec ses lueurs sacrées, Stello sentit s'enfuir ses pensées. Les bruits odieux du jour commençaient à se faire entendre. Il suivit des yeux le dernier des beaux yeux de la nuit, et lorsqu'il se fut entièrement fermé, Stello pâlit, tomba, et le docteur Noir le laissa plonger dans un sommeil pesant et douloureux. Stello, dernier chapitre 42. Fin. Telle fut la première consultation du docteur Noir. Stello suivra-t-il l'ordonnance ? Je ne le sais pas. Quel est ce Stello ? Quel est ce docteur Noir ? Je ne le sais guère. Stello ne ressemble-t-il pas à quelque chose comme le sentiment ? Docteur Noir à quelque chose comme le raisonnement ? Ce que je crois, c'est que, si mon cœur et ma tête avaient entre eux agité même question, ils ne se seraient pas autrement parlé.